Ce 23 décembre, le parquet de Nanterre a annoncé faire appel de la décision du tribunal de ne pas retenir la circonstance aggravante d'antisémitisme contre une nourrice accusée d'avoir empoisonné ses employeurs. Sacha Gozlan, vous êtes l'avocat de cette famille de victimes. La première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi la justice française a tant de mal à reconnaître cette circonstance aggravante de l'antisémitisme ?
Dans ce dossier, on a eu effectivement les plus grandes difficultés avec mon confrère Patrick Luhmann à faire admettre cette circonstance aggravante d'antisémitisme, puisque pendant l'information judiciaire, le parquet n'avait pas soutenu cette circonstance aggravante. Il a fallu que nous convainquions le juge d'instruction de le faire. Et finalement, à l'audience, le parquet l'a requéri, mais le tribunal ne l'a pas retenu. Et donc, c'est pour nous un soulagement que le parquet fasse appel de ce jugement, parce que cette circonstance aggravante, elle donne à la fois la mesure de ce qu'a été cet acte délictueux, mais elle permet aussi de comprendre ce qui s'est déroulé. Et on constate malheureusement, avec mon confrère Klugman, que depuis quelque temps, les juridictions ont beaucoup de difficultés à l'appliquer. Je pense notamment à ce dossier de la nourrice, mais je pense aussi au dossier de l'arbre mémoriel en hommage à Ilan Halimi qui a été détruit, dans lequel la circonstance aggravante d'antisémitisme n'avait pas été retenue, et finalement des décisions qui vident de leur substance des actes qui pourtant appellent une réponse pénale ferme et un rappel des principes républicains.
À notre micro, vous aviez expliqué que l'arsenal juridique en France était l'un des plus complets en matière de lutte contre l'antisémitisme. Alors qu'est-ce qui empêche en fait les juridictions de se saisir de ces textes de loi pour simplement appliquer la loi et sanctionner de façon plus sévère l'antisémitisme?
Effectivement, on a en France l'une des législations les plus performantes en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec des mécanismes d'aggravation, des possibilités pour les parties civiles de se constituer dans un certain nombre de dossiers, et donc des associations qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme de le faire. Je vous avoue que cette décision, elle nous apparaissait incompréhensible, parce que on avait dans le dossier un certain nombre d'éléments qui auraient pu servir de faisceau d'indice, parce qu'on avait des déclarations de la prévenue au cours de la perquisition qui ont été renouvelées en garde à vue, qui ont été renouvelées à l'audience, puis minimisées. Et donc, il y a quelque chose de parfaitement incompréhensible dans le refus d'appliquer cette circonstance aggravante. Peut-être que cela s'explique par une méconnaissance de la part des magistrats de ces mécanismes. Peut-être que ça s'explique par une volonté d'appliquer strictement la loi pénale, mais en faisant une interprétation qui contrevient, selon nous, à ces règles d'application. En tout état de cause, c'est un combat. C'est un combat que nous menons avec mon confrère Patrick Luhmann et avec d'autres confrères qui sont impliqués sur ces dossiers-là. Et c'est un combat dont nous faisons une affaire de principe. Parce que retenir cette circonstance aggravante d'antisémitisme, non seulement pour les auteurs, c'est s'assurer que la peine sera aggravée, c'est aussi pour les victimes s'assurer qu'elles soient restaurées dans leur dignité, et c'est aussi la fonction de la justice que de restaurer la dignité des victimes, mais surtout pour la justice, son premier objet, c'est de qualifier le réel, de qualifier des actes. Et lorsque ces actes ne sont pas qualifiés avec les textes de loi qui ont vocation à s'appliquer, c'est finalement la justice qui est la première victime de ce déni, et c'est ce que nous disions avec mon confrère Luhmann dans une tribune au Figaro il y a quelques jours.
Parler de l'application stricte du droit pénal, qui est l'un des grands principes fondateurs du procès pénal et qui est une des garanties de l'état de droit, on ne va pas le remettre en cause, mais ici, non seulement les textes existent, mais il y a quand même peut-être pas une qualification qui saute aux yeux, mais des présomptions qui sont assez fortes, que ce soit dans le cas de cette nourrice qui parle vraiment du problème qu'elle a à travailler pour des juifs parce que ça lui causait problème et que de toute façon c'est des radins. Ou dans l'affaire de l'arbre déraciné d'Ilan Halimi que vous évoquiez cet été, on a un peu du mal à croire que des gens déracinent cet arbre-là sans savoir sans savoir ce que cet arbre représente. Donc même cette application stricte de la loi pénale, on a du mal à comprendre pourquoi elle fait barrage à le prononcé de la qualification d'antisémitisme.
C'est pas l'application stricte de la loi pénale qui fait barrage. C'est une interprétation assez restrictive qui ne correspond pas au souhait du législateur. Le souhait du législateur, lorsqu'il a étendu et lorsqu'il a mis en place ces circonstances aggravantes, c'était précisément qu'elles puissent s'appliquer non seulement lorsqu'il y a un mobile à caractère antisémite, mais aussi lorsque les actes sont accompagnés, précédés, suivis d'écrits, d'objets, de propos de toute nature qui s'en prennent à la personne en raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion. Et donc on a une volonté de la part du législateur d'étendre cette circonstance aggravante, mais l'extension de cette circonstance aggravante, malheureusement, est encore trop peu appliquée par les juridictions. Dans le cas de la nourrice, effectivement, il y a les déclarations qu'elle avait tenues lors d'une perquisition. Le tribunal a écarté ces déclarations en considérant que ces propos avaient été tenus en l'absence de son avocat, donc pour une question vraisemblablement de respect des droits de la défense. Sauf que lorsque le tribunal est saisi de ces faits-là, non seulement la nourrice avait réitéré ses propos en garde à vue en présence de son avocat, mais en plus, au cours de l'information judiciaire, la défense n'avait jamais soulevé la moindre nullité quant à la validité de ces procès-verbaux. Et puis enfin, elle s'en était expliquée à l'audience. Et nous en avions débattu du fond des propos et non pas de la validité et de la recevabilité de ces éléments de preuve. C'est la raison pour laquelle nous étions extrêmement surpris par cette décision. Et puis par ailleurs, il y avait un certain nombre d'éléments, de témoignages, de recherches qu'elle effectuait sur les réseaux sociaux, sur Internet, de publications qu'elle avait effectuées sur les réseaux sociaux qui donnaient à ce dossier une coloration antisémite. Et dans le cas du tronçonnage de l'arbre d'Ilan Halimi, effectivement, l'arbre mémoriel en hommage à Ilan Halimi était le seul arbre qui avait été visé dans ce jardin. Et donc on pouvait considérer que par nature, puisque cet arbre mémoriel est érigé pour rendre hommage à une victime d'antisémitisme, attaquer cet arbre mémoriel, le détruire, c'est une des manifestations d'antisémitisme. Ça n'a pas été l'interprétation du tribunal correctionnel de Bobigny, et c'est la raison pour laquelle nous avions interjeté appel, le parquet avait interjeté appel dans ce dossier, et donc on se retrouve là avec deux dossiers qui sont importants. Des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes, dans lesquelles nous attendrons des cours d'appel qu'elles appliquent la loi, qu'elles rejoignent notre interprétation de la loi et finalement qu'elles restituent aux faits dont elles sont saisies leur exacte qualification.
S'il est important de revenir dans l'intimité de ces dossiers qui peuvent parfois être un peu techniques, c'est pour expliquer véritablement que il existe quand même des règles juridiques aujourd'hui qui défendent les juifs en France et que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est un véritable combat juridique pour que non seulement la loi soit appliquée, mais aussi que les magistrats changent peut-être pas leurs habitudes, mais une meilleure compréhension peut-être de ces dossiers.
Oui, ce combat-là, il n'est pas mené. Ce combat-là, il n'est pas mené exclusivement pour les Juifs. Ce combat-là, il est mené parce que c'est le souhait du législateur, qui est la représentation nationale, a décidé d'inscrire dans la loi des textes d'aggravation. Et cette question-là de la compréhension de décisions de justice sur des faits qui sont graves, elle est essentielle dans l'esprit du public. Lorsque on envisage ces faits-là et qu'on constate que les juridictions n'appliquent pas cette circonstance aggravante, on aboutit à une situation dans laquelle les victimes et tous ceux qui se soucient du sort des victimes ne comprennent pas pourquoi les lois ne sont pas appliquées. Les auteurs eux-mêmes ne commettent un acte sans l'aggravation. Et donc ça vide la peine aussi de sa portée, de sa valeur. Et ça, c'est extrêmement problématique. Donc la loi, elle protège les juifs, elle protège tous les citoyens, elle protège les minorités dans notre pays. Elle prévoit des peines d'aggravation. Ce que nous demandons, c'est strictement son application dans le respect des règles de l'état de droit, dans le respect des droits de la défense. Mais il nous apparaît que dans ces deux dossiers, dans le dossier de la nourrice, dans le dossier de l'arbre sectionné d'Ilan Halimi, la circonstance aggravante avait vocation à s'appliquer pour prendre la pleine mesure de la gravité de ces faits.
Alors la dernière question que je voudrais vous poser, c'est peut-être un message que vous pourriez adresser aux auditeurs de Radio Shalom qui aujourd'hui se posent véritablement la question de la ju est-ce que la défend la justice française les défend au même titre que tous les citoyens français quand on voit année après année des décisions de justice qui sont parfois difficilement compréhensibles pour le public. On avait le souvenir de Sarah Halimi, de Mirek Knoll, où les accusés n'avaient pas été forcément poursuivis. Là, on a des actes qui semblent manifestement antisémites où l'antisémitisme n'est pas retenu. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à nos concitoyens juifs qui peuvent être inquiets de cette justice qui peut-être ne les protège pas assez?
Bah, je partage cette inquiétude et cette inquiétude, nous la transformons en combat. Et que chacun ait bien conscience que ce combat-là, nous le menons non seulement pour les Juifs, mais plus généralement parce que nous pensons que défendre les Juifs lorsqu'ils sont attaqués, c'est défendre la société et c'est aussi défendre la justice dans ce cas-là de plus noble. Et ce combat-là, même s'il est difficile, chronophage, laborieux. Nous le menons aussi avec les institutions juives. Le président du CRIF avait déposé à la barre du procès. Le président de l'UEJF avait également déposé à la barre du procès. Nous étions mandatés par le SPCJ, le service de protection de la communauté juive, pour soutenir cette famille. Donc les institutions juives sont pleinement mobilisées et les avocats que nous sommes, travaillons ardemment pour faire en sorte que la justice réponde à cet idéal. Mais la justice, c'est une machine qui est lente, qui est complexe, qui prend du temps. Il y a des droits d'appel, nous les exerçons et nous espérons bien convaincre à hauteur d'appel les juridictions que dans ces deux dossiers, la circonstance aggravante d'antisémitisme doit être retenue et qu'il en va de la lisibilité de la justice et du sentiment aussi d'inquiétude qui pèsent sur un certain nombre de nos concitoyens qui ne se sentent pas suffisamment protégés. J'ajoute que depuis le 7 octobre 2023, il y a une explosion des actes antisémites en France et que à ce titre-là, la réponse pénale doit être extrêmement ferme. Et lorsqu'on voit des personnes sur les réseaux sociaux, je pense notamment à des responsables politiques de la France insoumise, qui pendant des mois et des mois et des mois appellent des juifs, des génocidaires, font l'apologie du terrorisme, eh bien, nous attendons aussi des magistrats du parquet qu'ils ouvrent les enquêtes préliminaires et que ces personnes-là soient jugées, qu'elles soient défendues dans le respect de l'état de droit et des droits de la défense, mais qu'elles soient jugées parce que ça aussi, ça participe du sentiment d'impunité qui trop souvent mine la cohésion sociale et la confiance que les citoyens peuvent accorder en la justice.
Sacha Gozlan, je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille victime du tentative d'empoisonnement. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom. Bonne fête de fin d'année.
Merci.